RCF.
Bonjour à tous et bienvenue au pied de la lettre, le rendez-vous avec la littérature. Deux livres aujourd'hui qui nous entraînent en montagne. Ce cadre magique, imposant, fait de pièges et de beauté, de grands espaces où se confrontent l'homme et la nature, et peut-être aussi la vraie nature de l'homme. Dans son dernier roman, Iri De Luca met en tête-à-tête un magistrat et un ancien activiste d'extrême-gauche. Un homme est mort, tombé au fond du ravin. Accident ou meurtre, cette rencontre impossible est-elle seulement le fruit d'une coïncidence ? Impossible d'Iri De Luca, traduit de l'italien par Daniel Valin et publié chez Gallimard. Et qui n'a jamais gratté la terre en espérant dénicher un trésor ? Eh bien, quand le narrateur vient en aide à son voisin, il ne sait pas encore tout ce qu'il va devoir faire. Sans compter que la montagne résiste, réveiller les légendes n'est pas sans conséquence. Le dit du Mistral d'Olivier Mac-Bouchard est publié au Tripode.
Au pied de la lettre, Christophe Héning.
Bonjour Iri De Luca.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver, vous venez d'Italie, vous avez traversé l'épidémie.
Les
sans
Alpes.
Problème.
Les Alpes.
Traverser les Alpes.
Les Alpes sont sans épidémie.
Impossible, c'est votre nouveau roman, ça se passe dans le cabinet du juge et en montagne. C'est à la fois un peu l'arène d'une tragédie, la montagne, ou bien le huis clos du bureau ?
Non, la montagne, c'est l'endroit où se produisent cette coïncidence de présence entre deux anciens camarades, l'un qui a purgé 20 années de condamnation pour son activité dans la lutte clandestine armée en Italie, et l'autre qui était de la même organisation, mais qui, pour s'épargner la prison, avait dénoncé les autres. Donc, un traître.
Qu'on appelle collaborateur de justice, hein, en Italie, ce qui est nom d'un traître.
Si, c'est une forme neutre pour couvrir, c'est un euphémisme officiel pour couvrir l'évidence d'une trahison. Donc, ça arrive que exactement le traître va tomber dans le précipice. Alors, un juge soupçonne le meurtre. Mais com'è possibile che on soupçonne le meurtre en montagne, où c'est le lieu par évidence de chutes involontaires, ça veut dire des accidents. Par contre, on appelle des accidents ceux qui se produisent dans les usines, sur les lieux de travail, et qui coûtent la vie à presque un millier de personnes toutes les années, plus les dizaines de milliers de personnes blessées. Alors, c'est ça s'agit exactement, précisément d'un meurtre, non ? Sur le lieu de travail, il s'agit du meurtre
et
du danger obligatoire. La montagne, c'est le lieu des accidents. Et alors, il y a...
Qu'on a choisi.
Commence cette dispute entre l'accusé et le magistrat, qui à partir des mots avec lesquels on définit les choses.
On va y venir. Bonjour, Olivier Mac-Bouchard.
Bonjour.
C'est votre premier roman. Alors, l'avoir entre les mains, en pleine rentrée littéraire, qu'est-ce que ça fait ?
Un très beau sentiment d'accomplissement et de satisfaction, de devoir accompli. Voilà.
C'est un roman qui est enraciné en Provence,
oui.
Qui est sans doute votre terre d'origine,
tout
mais en
fait.
Même temps, vous vivez aux États-Unis.
Oui. je suis né dans le Luberon, donc ça se passe dans le Luberon. Donc c'est la Provence des terres, c'est là où je suis né, j'ai grandi. Et puis après, l'appel de l'aventure me fait voyager outre-Atlantique. Voilà.
Certains traversent les Alpes, d'autres l'Atlantique. Des livres, des histoires au pied de la lettre, il y aura aussi une place toute particulière à la poésie. Rendez-vous avec Stéphane Bataillon, comme chaque semaine. Et puis on retrouvera un auteur malheureux dont le livre est sorti pendant le confinement, alors que les librairies étaient fermées. Eh bien voilà, ça sera une séance de rattrapage tout à l'heure. Iri De Luca. Donc deux hommes en montagne, vous l'avez dit, sur le même chemin. Deux hommes qui sont à la fois distants et en même temps très proches. Ils étaient amis d'enfance et ils s'ignoraient depuis, justement, vous le disiez, depuis ce moment de la trahison. Mmh. Alors, ils se connaissent ou ils ne se connaissent pas ? Ils se reconnaissent ?
Ils ne sont pas des militants qui se sont retrouvés comme ça, en se connaître dans la clandestinité de la lutte armée. Ils se connaissaient depuis l'enfance. Ils sont grandis ensemble. On était un peu d'une famille âgée, aisée, riche, et l'autre était d'une source pauvre, d'une famille pauvre. Mais ils se sont grandis ensemble. Et ils se complétaient. Ils s'admiraient l'un l'autre. Et donc, pour le militant incarcéré, qui a purgé sa peine entièrement, la trahison, ce n'est pas seulement une question politique, c'est une affaire personnelle, c'est une blessure qui ne regarde pas tout simplement la trahison d'un groupe de camarades, mais la trahison de son ami plus sincère, plus fondé dans ses racines sentimentales. Donc c'est un caractère particulier de relation. Et aussi, c'est la relation très particulière entre le magistrat et l'accusé.
Alors oui, vous avez choisi justement de confronter l'accusé et le magistrat, parce que dans cette recherche, c'est une recherche de la vérité.
Non, c'est un parcours. C'est un parcours. Le magistrat, normalement, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de tenir en prison une autre personne. Donc, il y a une supériorité. Et l'accusé se trouve en condition d'infériorité. D'une part, il y a l'État en personne, et de l'autre, il y a un citoyen privé qui doit se défendre d'une accusation lourde. Donc, dans un interrogatoire, il n'y a pas de dialogue, non ? Comme on peut faire entre nous. Parce que le magistrat ne veut pas avoir des informations comme ça. Il prétend de savoir déjà la vérité.
Il est retors, en plus, hein ? Manipule un petit peu la discussion. Hein.
Il manipule la discussion parce que l'accusé refuse un avocat de défense. Et donc, il prétend que son avocat obligé d'être là présent soit muet. Donc, le magistrat profite d'une certaine faiblesse de la défense pour tricher un peu, pour essayer de lui extorquer la confession. Mais alors, il y a cette on bascule la disparité, parce que le magistrat est jeune et l'accusé est ancien. Le magistrat ne connaît rien du tout les années et les raisons d'un engagement révolutionnaire dans ces années-là. Et en plus, il ne connaît rien du tout de la montagne. Et donc, cette manque de compétence sur l'argument arrive à produire une certaine égalité entre les deux. Et donc la possibilité d'un dérapage vers le dialogue, d'un interrogatoire qui normalement ne peut pas être jamais un dialogue.
On ne peut pas s'entendre normalement dans un interrogatoire. En tout cas, chacun est sur ses positions. Mais vous le dites bien, le pouvoir, il est chez le juge, mais il passe un petit peu chez l'accusé aussi. Hein. À un moment, il dit bien, à mon âge, la prison me prive de peu. On n'a pas de prise sur l'accusé.
En plus, il a déjà purgé années et années, vingtaine d'années de prison, donc il a une relation avec l'isolement et l'incarcération qui est beaucoup plus expérimentée donc, du moment qu'il a commencé à entrer dans les prisons.
Alors, ça, c'est effectivement, tout le long du livre, il y a cet échange entre le juge et l'accusé, mais il ne faut pas oublier qu'entre chaque chapitre, il y a aussi
Des lettres d'amour. Si. Il y a des lettres d'amour parce que quelqu'un...
Écrites par l'accusé.
Oui, de l'accusé. Parce que dans l'isolement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se souvenir de certaines choses par cœur, de certaines chansons, et on peut écrire une lettre. Et la lettre, dans cette circonstance, a un effet comme espèce chamanique. Ça veut dire que tant qu'on écrit une lettre, la personne destinataire de cette lettre est là, est convoqué pour être à côté. Donc une lettre pour ce prisonnier est aussi la façon de faire une conversation avec sa femme lointaine et se tenir compagnie avec elle.
Est-ce que c'est une forme de testament, de témoignage? Parce que on sent bien qu'il n'a pas peur du juge, mais on ne sait pas comment ça va se terminer entre les deux, entre le juge et l'accusé. Est-ce que cette correspondance est un refuge?
Pour moi, c'est aussi la possibilité d'expliquer quelque chose de personnel et de, intime de, cette, de ce personnage que dans l'interrogatoire ne peut pas sortir, ne peut pas venir à la surface. Là, il y a comme un sous-fond de sa personnalité dans mm-hmm. cette relation avec, sa, avec la femme et l'écriture. Et c'est, les prisons sont le dernier endroit où on communique encore avec les lettres.
Où on écrit encore
patiemment. On écrit encore des lettres. J'ai écrit beaucoup de lettres dans ma vie, mais de l'ordinateur, de l'arrivée de l'ordinateur, je n'écris plus de lettres que à des prisonniers, à des personnes qui sont en prison. Ce sont les dernières lettres que j'ai encore écrites et que je reçois encore, qui sont des lettres des prisonniers.
Qui sauvent la correspondance.
Et qui sont forcés à faire cette forme de correspondance, mais que j'aime beaucoup parce que je l'ai apprise. J'ai appris cette forme de relation. Et ce sont déjà les lettres qui m'ont enseigné qu'avec l'écriture, la personne que tu tutoies est là, est présente.
Alors, ce livre intitulé « L'impossible ». Et l'impossible, alors il faut donner une définition, c'est quoi l'impossible ? C'est l'événement jusqu'à ce qu'il se produise.
Eh oui, dans notre vie, continuellement, il se produit des choses impossibles. Dans la vie privée comme dans la vie publique, parce qu'on regarde qu'est-ce qui s'est passé dans ces derniers mois. Quel bouleversement impossible s'est vérifié dans notre société. Donc l'impossible est toujours là. Mais on l'appelle impossible parce qu'on ne s'est pas encore manifesté. Le moment où l'impossible se manifeste contre toute probabilité, voilà qu'il est inévitable.
Mmh. C'est une forme de coïncidence. Alors en même temps, le juge il dit non, c'est pas possible, vous pouvez pas, c'est pas possible, c'est donc impossible que vous vous retrouviez par hasard. Il y a le jeu du hasard.
L'hasard, c'est un mot différent de nommer la divinité.
C'est-à-dire ?
Celui qui fait advenir les choses, non ?
D'accord.
Qui a le dessein des vies. L'hasard, c'est un nom laïque pour la divinité.
D'accord. Trace longtemps aussi, il y a des traces du passé, ce passé du XXe siècle, que le juge, vous dites, ne comprend pas.
Oui, c'est incompréhensible. Il y avait un écrivain autrichien qui s'appelait Stefan Zweig qui disait que ce qu'il avait vécu pour les générations suivantes était historique et incompréhensible. C'est comme ça. Il y a des passages dans l'histoire, comme le passage entre l'autre siècle et celui-là, qui efface complètement la possibilité de l'entendre, les raisons de l'époque précédente.
Des engagements notamment, c'est un petit peu vous quand même, tous ces engagements du XXe siècle.
J'ai participé à des engagements publics et communautaires. Moi, je prends des engagements solitaires.
Alors ça, vous le soulignez aussi, hein, ça fait partie du débat entre le juge et l'accusé, la responsabilité personnelle et collective.
Oui.
Quand il y a un projet, c'est ça qui engage la responsabilité collective ?
Engage la responsabilité collective. Mais dans l'espace judiciaire italien de cette époque, la responsabilité était collective sans besoin d'identifier la responsabilité personnelle. Ça veut dire que si vous étiez accusé de participer à une bande armée, vous étiez responsable de tout. Même si vous avez tout simplement donné de l'abri à un militant clandestin, vous étiez complice totalement avec le même degré de peine. Donc vous étiez responsable de tout simplement parce que l'accusation générale n'avait plus besoin de la responsabilité individuelle. Il s'agissait de certaines lois spéciales qui continuent encore avec la législation italienne contre la mafia.
D'accord. Vous écrivez aussi que le temps des ennemis s'est refermé au XXe siècle.
Oui. Les ennemis comme en tant que telle définition d'un être humain comme ennemi public, non ? Oui, ce temps, pour moi, s'est refermé. Il n'y a que des adversaires provisoires.
On a du mal, du coup, à comprendre ce qui s'est joué dans les années 70-80.
Évidemment. Il faut se pencher sur cette histoire et écouter les voix de ceux qui étaient pris dans le mécanisme.
Est-ce qu'il y a quelque chose à retenir de cette époque, justement ? Est-ce qu'il y a quelque chose...
Les histoires personnelles. sont les histoires personnelles qui sont l'archive historique du XXe siècle.
Et qui peuvent raconter les aspirations, les projets, les défis de l'époque.
Oui. Ça veut dire que pour moi, l'archive historique, l'historien du XXe siècle a été le cinéma. Ça veut dire le cinéma qui a raconté les petites histoires des personnes qui ont été prises sous la pression d'une histoire majeure qui a écrasé toutes les petites histoires mineures et qui a forcé à inventer des ressources, des résistances, des survies. C'est le cinéma. L'historien du XXe siècle.
L'historien du cinéma. Le cinéma plutôt historien. Alors, il y a un autre personnage, j'ai presque envie de dire aussi, dans votre livre, dans votre roman, c'est la montagne.
La montagne, c'est l'endroit. Où il y a la montagne, comme dans mes histoires où il y a Naples, c'est le protagoniste. L'endroit, c'est le protagoniste. Et les personnages sont des figurants
l'intrigue.
De l'intrigue, oui, du lieu, du personnage, autour du personnage.
Cette montagne, justement, c'est un cadre tout à fait particulier. Et vous écrivez, là, on porte secours à la montagne. Il n'y a plus d'amis ou d'ennemis. Il y a une solidarité.
Mais le porter secours, c'est obligatoire. En montagne, dans la mer, dans la rue. Autrement, il y a le crime d'omission de secours. Le secours est obligatoire. Mais c'est aussi inévitable dans tout être humain. Il y avait une loi en Italie qui empêchait à un pêcheur de Sicile de sauver quelqu'un qui était en train de se noyer. Il y avait une loi du Parlement italien. Et donc, s'il était incriminé de complicité dans l'immigration clandestine, son bateau séquestré. Mais c'était une loi qui se heurtait au sentiment de justice et à la nécessité et l'obligation du secours. Donc les pêcheurs faisaient le même. S'ils se trouvaient à faire ces rencontres-là par hasard, on n'allait pas pêcher des naufrages, il allait pêcher les poissons. Mais il se trouvait des naufrages comme ça, qu'il était inévitablement poussé à les sauver. Donc il sabotait les lois, évidemment. Il y a toujours, dans notre expérience du XXe siècle, une confrontation et une différence entre légalité et justice. La légalité peut être illégale, comme ça, formellement légale, mais qui incite à l'omission de secours, qui oblige à l'omission de secours. Et il y a le sentiment de justice qui surmonte tout ça.
Ça, vous le sentez aussi parce que vous êtes vous-même encore aujourd'hui engagé justement dans son combat de justice, notamment pour les migrants.
Oui, à fur et à mesure qu'il y a des cas qui se produisent, oui, ça me regarde. Ça me regarde comme personne, comme citoyen. Pas comme écrivain, comme citoyen, comme être humain, et comme quelqu'un qui est né dans la Méditerranée. Non? Dans cette mer de ma jouissance de l'enfance et de l'adolescence, cette mer est devenue une espèce de cimetière marin aujourd'hui. Lastriqué, tous les pavés de corps humain sur le fond.
Je reviens à cet échange entre le juge et l'accusé. Il y a une forme de fascination, malgré tout, entre les deux.
Non. Il y a des concessions à l'explication de la part de l'accusé et une curiosité intellectuelle à côté de celle de la nécessaire pour l'acte judiciaire de la part du magistrat. Il a une curiosité, par exemple, vers la montagne. Et il se laisse convaincre de l'accusé d'aller en montagne. D'aller et voir exactement le lieu où s'est produit l'accident, la chute. Donc il a une... Plus qu'une admiration, il a un intérêt à connaître. Au-delà des limites de l'enquête.
Ça fait penser un petit peu à votre précédent livre où il est question du fils que n'a pas eu le narrateur. Est-ce qu'il n'y a pas un lien un peu filial entre cet accusé et le juge ?
Non. Non, mais il y a la forme de dialogue qui me fascine. C'est une forme de dialogue que j'ai aimé comme lecteur depuis l'époque des livres des dialogues de Socrate, parce que je n'aime pas la philosophie et les systèmes philosophiques avec lesquels le philosophe encadre le monde entier. Mais là, dans les dialogues de Socrate, on pouvait faire sortir les idées à travers une confrontation, et donc il n'y avait pas un système, mais il y avait une explication de la... des pensées différentes. Ce dialogue, qui était théâtral par excellence, me rendait compréhensible la philosophie.
Et puis aussi, dans cet échange, je reviens un peu là cette fois-ci à cette correspondance, un attachement à la fragilité, peut-être à la beauté aussi. L'élégance n'est pas dans la garde-robe, mais dans les attentions de deux êtres qui vivent ensemble.
Oui.
Il y a beaucoup... Enfin, dans cette correspondance, beaucoup de tendresse et peut-être aussi de fragilité.
Si, mais l'attention, par exemple, de deux vies qui continuent à s'aimer pendant toute leur vie, bah, ça, pour moi, ça a de l'élégance à l'état pur. Ils ont rejoint l'élégance. C'est deux qui s'aiment et qui se procurent des attentions et des prémures, des précautions. Ça, c'est la perfection de la couple, du format couple. Être à deux, c'est être ni seul, ni dans la multitude. C'est un deux à part. Le deux, c'est un numéral à part.
C'est pas le contraire de un, pour reprendre un
truc. Oui, une espèce comme ça. Il y a les Grecs et aussi les Hébreux, la langue hébraïque, qui connaît ce dual, cette formule duale de la grammaire. Si, les deux, c'est le fondement de la biologie. C'est le nucleus de la biologie. Et c'est pour ça que sur le bateau de Noé, sur l'arche de Noé, n'arrivent que des couples. Sans les petits. Les petits n'existent pas. Cette formule de la couple à deux, qui monte sur l'arche de Noé et qui sera la biologie reproductive de la pré-déluge. Le deux, c'est un numéro formidable. Être à deux, c'est le maximum possible dans la vie.
Si je comprends bien, vous continuez à lire chaque matin la Bible dans
le
texte.
Oui, je continue à me réveiller à l'ancien hébreu.
Olivier et Mac Bouchard, vous avez lu Impossible, le livre d'Éric Deloca. Qu'est-ce que vous avez retenu, ressenti?
Je suis en train de le lire parce que je ne voulais pas le finir jusqu'à rencontrer Éric Deloca. Je trouve que c'est assez touchant lorsque on commence un livre, on rencontre la personne qui l'a écrit et puis après on se replonge à l'intérieur. Donc j'ai voulu ne pas le finir et j'ai été fasciné par le dialogue. Le dialogue donc dans les comptes rendus de justice des greffiers entre l'accusateur et l'accusé, Éric Deloca mentionnait Socrate et la philosophie, et on sent vraiment le combat oratoire, la jouxte oratoire, mais qui est pleine de sens, dans le sens où c'est un jugement sur le monde, un jugement sur une génération, et c'est deux visions du monde qui s'affrontent, qui l'un cherche à comprendre et l'autre lui dit, mais vous n'avez pas compris.
Et vous ne comprendrez pas.
Et vous ne comprendrez pas, oui.
Mais pardon, je vais écouter les histoires d'Olivier. Hein.
On va y venir.
Je suis curieux de ça.
Ça ne me gêne pas du tout si on reste sur ces histoires-là.
Non, mais on vient à votre livre, hein, l'audit du Mistral, Olivier Mac Bouchard. On va juste écouter un extrait lu par Stéphanie Gallet, qui nous lit un extrait de Impossible, le livre d'Éric Deloca.
Impossible. C'est la définition d'un événement jusqu'au moment où il se produit. Vous aurez beau mettre tous les zéros que vous voulez, la statistique, et vous ne pouvez nier les coïncidences. Elles existent en dépit des zéros. Quantité de découvertes en ont été la conséquence, et aussi quantité de désastres. Une personne passe sur un pont au moment où il s'écroule, tant d'autres y sont passés juste avant. Les coïncidences sont une constante, elles n'ont rien de rare. Que nous nous soyons trouvés, cet homme et moi, à quelques centaines de mètres de distance, au même moment, dans cet endroit désert, est pour moi un hasard évident et inexorable. En tant que personne présente sur place, je sais que votre impossible s'est produit.
Tu le retrouves au sommet le plus haut du monde. ses yeux doux, puis ses mots d'esprit. Ça fait un bout de temps que tu veux aller vers lui. Il paraît que ça va se passer vendredi. Comme des flammes, vous danserez jusqu'à l'aube. Oh, tu le retrouveras au sommet. Au sommet, le plus.
Au sommet, c'est chanté par les deux frères, des chanteurs québécois. Au pied de la lettre, aujourd'hui, je reçois Éric Deluca pour Impossible aux éditions Gallimard et Olivier Magbouchard pour Le Dit du Mistral aux éditions du Tripode.
Au pied de la lettre, RCF.
Olivier Magbouchard, alors au début c'est une histoire toute simple, rurale, qui commence avec un événement banal, un mur est emporté par l'orage, et voilà que le vieux voisin, un peu bourru, vient prévenir le narrateur. On se dit que bon, voilà, il va falloir réparer ce mur simplement. Il y a plus que ça, qu'est-ce qui se passe?
Le voisin, un peu bourru, un homme des terres, passe le lendemain de l'orage et dit au narrateur « Suivez-moi ». Quelque chose s'est passé sur notre mur mitoyen. Donc, le narrateur le suit et au milieu de la glaise, il découvre, il voit des éclats de poterie, donc qui sont objectivement anciens, hein, des vestiges. Et il décide de ne pas alerter les autorités. Il décide de creuser par eux-mêmes pour voir qu'est-ce qu'il y a dessous, d'où est-ce que ces morceaux de poterie viennent et quelle est leur signification.
Et avec l'idée aussi d'en tirer un peu profit quand même, hein.
Ah, je suis pas d'accord. Non, pas, enfin, en tout cas un profit en termes d'aventure. Ils ont envie de chercher à comprendre, de vivre cette aventure, mais il y a pas de recel ou de dimension monétaire. Et en creusant, ils découvrent un passé de leur région, de ce terroir, et toute cette signification qui avait été oubliée, et pour redonner du sens à leur vie dans le monde moderne, ils vont devoir comprendre à quoi servaient ces poteries, ces objets.
En tout cas, il y a une sorte d'excitation de la découverte, hein. On voit que ils vont passer du temps, beaucoup de temps. Ils vont même aller.
C'est l'aventure de leur vie.
Arrêter de travailler. Enfin, à un moment pour l'un d'eux, on allait trouver, même si on ne savait pas encore quoi.
Il y a l'excitation de la découverte,
du mystère aussi.
Du mystère, de l'illégalité, de savoir qu'est-ce qu'il y a sous nos pieds. Et ils décident de s'offrir une belle aventure, un rêve d'enfant, je pense. Ils se prennent au jeu comme deux gamins. Ils disent, on va le faire nous-mêmes, on creuse et on va voir ce qu'il y a. Faisons-le par nous-mêmes.
On creuse et puis ils vont loin. Trouvent. Alors, on va pas tout dévoiler non plus parce qu'il y a des choses qu'il faut garder, mais ils vont dégager une source.
Mmh. Oui. Donc, ça se passe en Provence, dans la Provence des Terres. Donc, une source, ce n'est pas rien, c'est la source. Hein. C'est la Provence, c'est le pays de la soif. Et donc ils sont déjà très heureux de cette découverte. Donc le paysan est très heureux de cette découverte parce que ça veut dire ça renvoie à du genou, à du pagnol à la main dans des sources, bien évidemment. Et le narrateur, enfin derrière la source, il y a quand même toute une symbolique de c'est beaucoup plus que simplement de l'eau. Hein. Cette source va les amener dans un voyage intérieur, je pense.
D'autant plus que c'est pas une source qu'il découvre, c'est une source qu'il retrouve, oui. Qui existait déjà.
Une source qui existait, qui a été perdue, qui a été oubliée volontairement, qui a été obstruée et recouverte de terre. Et ils vont comprendre pourquoi les anciens ont voulu la cacher, l'oublier. Voilà.
La cacher, l'oublier, mais eux, du coup, vont la remettre à jour, au jour. Et alors, c'est là où c'est la grande réussite de votre roman, c'est que on est avec vous, en tout cas avec eux, en train de marcher dans la terre humide. Et puis, en même temps, il y a un côté un peu fantastique qui vient se glisser. Comment dire
Oui, tout doucement. Petit à petit, c'est une aventure réelle. Qui glisse petit à petit dans, je dirais pas surnaturel ou fantastique, je dirais plutôt dans l'imaginaire, qui glisse dans un monde merveilleux, fait de légendes et de mythologie et de bestiaire provençal. Et ils vont à... c'est un peu une porte dans un univers onirique, oui. Un réenchantement du réel, en tout cas.
Ça veut dire que ça, enfin, la source qui était enfouie, c'est un peu aussi toutes ces traditions, toutes ces légendes qui elles-mêmes étaient enfouies, oubliées.
C'est une clé et c'est un média, un moyen d'y accéder. Oui. La source ne fait pas que délivrer de l'eau, elle délivre cet univers, je pense.
Et on voit vos personnages, les uns les autres, s'épanouir d'une certaine manière. Je pense notamment aux femmes de ces deux qui sont en train de chercher, là, toujours obsédées par creuser la terre. Il y a deux femmes qui sont spectatrices et qui, petit à petit, entrent dans le jeu.
Tout à fait. Bah, c'est
leurs épouses.
Ces deux protagonistes ont des épouses qui, au début de l'histoire, se sentent un peu exclues de cette relation qui se noue. Et puis, bah, c'est quand même illégal. Donc, mais ça va pas, tu vas pas faire ça. Et puis, petit à petit... ben la femme plus âgée découvre des vertus un peu thérapeutiques à cette source. Et puis la plus jeune se pique d'intérêt aussi pour cette source et cet univers qui se dévoile à elle.
Mmh. Alors, il y a le côté très... On va dire dans la première partie, mais c'est pas aussi net que ça. Il y a des choses qui passent de l'une à l'autre. Dans la première partie, c'est très concret. On aime bien manger, on aime bien se retrouver. Là aussi, il y a des traditions. Pour le coup, on les a pas perdues, ces traditions-là.
Ouais. La première partie est très orientée sur le quotidien, sur ce que je définirais la culture de tous les jours. Voilà. C'est les légendes du quotidien, les petites anecdotes, le parler local, les recettes. C'est assez gourmand au final. Donc c'est vraiment une fenêtre ouverte sur le vivre dans le Luberon, vivre en Provence, comment on vit au jour le jour là, dans ce bel endroit.
Et puis il y a une scène aussi très concrète qui montre que ils perdent pas pied simplement. C'est que bon, à un moment, il faut quand même se débarrasser de tous ces tessons.
Pièces à conviction.
qui sont des pièces à conviction de détournement de matériaux archéologiques, quoi, d'une certaine manière. Donc là, ils sont pas. En fait, vos personnages sont dans l'imaginaire, vous nous l'avez dit, et en même temps toujours bien collés au réel.
Tout à fait, mais je dirais qu'il y a un miroir entre ces deux personnages. Donc le plus vieux, c'est un paysan qui est très un peu bourru, qui est très terre à terre. Et bon, lui, l'imaginaire, c'est très minoritaire dans sa personnalité. Et au contraire, le narrateur, qui est plus jeune, on sent que il a envie d'y croire, quoi. Il s'ennuie un peu dans sa vie. Il y a pas grand-chose qui se passe. Et il a envie de glisser dans cet imaginaire. Et donc les deux se complètent, et au fur et à mesure du livre, je veux dire, peut-être il s'inverse, quoi. Puisque dans le vieux paysan, dans la fin du livre, en tout cas dans la seconde partie, pour arriver à continuer à vivre, commence à croire aussi dans cet imaginaire, quoi. Il s'élève de ce côté terrien et veut aussi accéder à cette dimension force imaginaire, oui. Et il a recours à ses forces imaginaires pour que son réel puisse continuer à exister. Voilà.
Alors, il y a une phrase qui va vous plaire, Éric Deloca. Qui ne dit rien ne ment jamais. C'est joliment dit.
Oui, si. Ah, qui ne dit rien a toujours raison.
Qui ne dit rien ne ment jamais. C'est aussi un peu cette façon pour chacun de vos personnages de vivre l'aventure, mais avec une économie de mots malgré tout.
Oui, ils sont avares de mots. Ce sont des surtout les paysans, mais le narrateur aussi. C'est des gens qui ne parlent pas beaucoup et des gens pour lesquels un silence veut dire énormément et un regard vaut toutes les déclarations.
Votre livre, c'est aussi un hommage à tous ces auteurs provençaux. Alors, parfois,
ce sont des auteurs avec lesquels j'ai grandi et qui m'ont fait grandir.
Voilà, Daudet, Giono.
Oui, Bosco.
Voilà, et souvent, donc, vous commencez les chapitres avec une citation. « À l'heure où nous dormons, un monde mystérieux s'éveille dans la solitude et le silence. » Ça, c'est qui ? Vous vous souvenez ?
C'est Daudet.
Daudet, voilà.
Oui. En fait, en écrivant, je me suis documenté et je me disais comment ces paysages, comment ces personnages ont-ils été décrits par, par ceux qui étaient là avant moi, avant nous. Et donc, je me suis mis à acheter beaucoup de bouquins. En disant, lui, c'est un incontournable, il faut que je m'en inspire. Et au final, mon manuscrit progressait et à côté de moi, il y avait une pile de livres, qui grandissait peu à peu et qui m'a dépassé. Et c'était les incontournables, les classiques de la littérature provençale. Et j'ai eu envie de... Je me suis dit, c'est dommage que ce manuscrit soit en parallèle, ne fasse pas référence à toute cette pile de panthéons de la littérature. Et je me suis dit, commencer le chapitre par une petite pointe, une petite pique, une légère allusion pour montrer que y avait des écrivains, hein, des gens avant nous, et ce livre n'est qu'une étape au final, n'est qu'une. J'espère qu'il se rajoutera sur cette pile, mais en tout cas c'était un hommage et un rouage dans une chaîne de transmission. Voilà.
Alors là, c'est un hommage aux auteurs provençaux, pas seulement, c'est aussi à la sagesse populaire provençale, parce que il y a plein
c'est un hommage proverbes, un petit peu à la culture provençale, parce qu'en effet il y a beaucoup de proverbes. Déjà il y a le parler provençal, oui. Et puis il y a cette sagesse populaire. Des fois j'ai trouvé des perles de ces dictons et je me disais, mais c'est vraiment très dommage, que c'est regrettable qu'on ne les ait pas en français, qu'ils ne soient pas parvenus dans la langue de Molière.
Alors vous les écrivez dans le livre, vous les écrivez en provençal, oui. Là je ne vais pas vous le faire en provençal, hein. Il faut laisser faire ce que l'on ne peut éviter.
C'est beau, non?
Mais oui, c'est une sagesse, il faut laisser faire ce qu'on ne peut éviter. Gris de Luca approuve.
Si.
Il y a un autre proverbe que j'ai adoré et qu'un lecteur m'a dit qu'il avait beaucoup aimé, c'était « Il faut un fou pour mettre une pierre dans un puits, il faut trois sages pour l'en retirer. » J'ai trouvé ça joli.
Est-ce que c'est un livre de sagesse ?
Il y a un cheminement intérieur, une catharsis. C'est... C'est un salvateur, en tout cas, je pense, pour les personnages de ce roman, en tout cas.
Page 161, il y a un avertissement. Attention, ça va complètement partir en vrille ou partir dans l'imaginaire. C'est un peu ça, hein, que vous dites. Hein. On l'écoutera tout à l'heure, hein, lu par Stéphanie Gallet, cet avertissement. Simplement, on entre à ce moment-là dans un monde où l'eau, la terre, le vent... Les légendes, les animaux vont prendre corps presque, prendre place.
Je suis quelqu'un d'assez franc et donc je voulais avertir le lecteur. Donc il y avait un peu à la manière d'un conteur qui raconte une histoire et qui veut dire tout commence par... Donc ça c'était la volonté, ce tutoiement entre celui qui raconte et celui qui lit. Ce lien direct pour faire référence à une histoire orale qu'on raconte. Et ensuite une mise en garde, hein, en disant attention, je t'ai prévenu, dans les légendes il y a une part du vrai et une part du faux. On n'arrive jamais à distinguer la source de la légende, qu'est-ce qui est le fait générateur de la légende. Et bien jusqu'à présent je t'ai parlé du fait générateur, et attention maintenant, peut-être la vraie vie, le monde va s'ouvrir. Donc arme-toi de toute la logique que tu souhaites, mais sois prêt à apprécier la beauté du monde, parce que tu vas rentrer dans un nouveau monde qui peut te désorienter, mais si tu t'accroches, ce monde est superbe.
Oui, parce que j'allais dire, là on passe de l'image, pas d'Épinal, mais de l'image provençale, belle, envoûtante, émouvante, à une terre beaucoup plus âpre, où il y a la présence de la montagne, de l'épreuve, du feu, de la sécheresse.
La montagne est un personnage. Nous avons parlé de ces deux personnages, mais après il y a d'autres personnages plus mythologiques, voire éléments naturels, donc le vent, l'ocre, le calcaire et la montagne, qui prennent complètement part dans cette intrigue, dans ce monde merveilleux, et qui vont faire évoluer l'intrigue de rebondissement en rebondissement, qui vont prendre complètement part à ce déroulement et arriver jusqu'à la conclusion qui est l'explication complète du réel comme de l'imaginaire.
Et qu'on ne va pas révéler, bien évidemment.
Surtout pas.
Surtout pas. Et on ne va pas trop raconter non plus, parce qu'il faut se laisser guider, justement, vous le disiez, hein, dans ce monde un peu imaginaire, surprenant. C'est un hommage. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes aux États-Unis, vous travaillez à San Francisco.
Oui.
C'est un hommage à la terre lointaine que vous avez laissée en France, ou c'est quelque chose que vous portiez en vous?
Il y a la nostalgie, je pense, a été un certain moteur. L'éloignement est un autre piston de ce moteur. Mais la volonté, c'était un hommage à cette terre et aussi aux hommes qui l'ont cultivée, qui l'ont fait vivre et qui ont fait ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Donc, un hommage humble, mais franc.
Oui. Voilà, et pour ce livre, premier roman... L'Odie du Mistral, vous avez déjà reçu le prix Plume.
Oui,
première plume qui reconnaît un premier roman de la rentrée. On va écouter un extrait lu par Stéphanie Gallet.
À ce stade de l'histoire, le lecteur peut décider de s'arrêter. Il aura alors lu un joli conte de Noël provençal, ce qui n'est déjà pas donné à tout le monde. Mais s'il choisit de continuer sa lecture, il faut le mettre en garde. Il doit se rappeler que les légendes, si elles sont racontées pour faire rêver, introduire une part de mystère dans un monde terne, sont aussi racontées pour expliquer l'incompréhensible, démêler l'indémêlable. Il devra garder à l'esprit que toutes les légendes, sans exception, ont un fond de vérité. On ne sait jamais de quoi il retourne exactement. La part du vrai, la part du faux, bien malin, celui qui arrive à les démêler.
Pied de la lettre avec Éry De Luca pour Impossible aux éditions Gallimard et Olivier Mac-Bouchard, le dit du Mistral aux éditions du Tripode. Cette musique, on l'écoutait, elle était dans votre roman.
Tout à fait, oui, ça m'a surpris.
Olivier Mac-Bouchard, il s'agit de
Kings of Convenience, Quiet is...
Rather dance with you.
Yeah, I'd rather dance with you than talk with you.
Voilà,
c'était très beau CD.
Voilà, qui était dans votre roman.
Au pied de la lettre, présenté par Christophe Hénin.
Alors, dans quelques instants, on va retrouver Mélissa D'Acosta qui va nous parler de son roman qui est paru durant le printemps 2020. Mais avant, Éry De Luca, vous écoutiez avec beaucoup d'attention ce que nous disait Olivier Mac-Bouchard de son livre.
Bien sûr, c'est un privilège de pouvoir écouter un livre directement de la voix de son auteur. Et donc, voilà que j'ai trouvé des choses qui m'ont intéressé, qui regardent des lieux littéraires par excellence, car ça veut dire le mur, la chute du mur, la recherche du trésor, que c'est une chose qui regarde l'enfance perpétuelle d'un être humain. J'ai un champ et je me suis trouvé à acheter un détecteur de métaux. Pour trouver quelques réponses.
Quelques réponses.
J'ai trouvé de la ferraille.
Vous avez trouvé de la ferraille.
De la ferraille, oui.
Bon, et pas de tessons, de poterie,
rien du tout.
Il faut continuer à chercher.
Et en plus, il y a au fond de la recherche, l'eau. Donc, il ne s'agit pas de trouver le puits de pétrole. J'essaie de trouver l'eau, la source de vie. Donc ce sont des arguments, des suggestions, des caractères littéraires par excellence qui me convainquent à chercher le livre.
Mais ça, l'eau, la terre, le feu, le vent, ce sont effectivement des éléments qui sont romanesques.
Oui, ce sont romanesques, mais c'est aussi de la première philosophie. Avant Socrate, la philosophie des pré-Socrates était la philosophie qui cherchait des explications de la beauté du monde.
Mm-hmm. Mélissa D'Acosta, bonjour, vous nous avez rejoint.
Oui, bonjour.
Voilà, alors votre livre s'intitule « Les lendemains ». C'est un livre plein d'espérance, mais « Les lendemains », malheureusement, c'est un livre publié chez Albin Michel qui est sorti au mois de mars, c'est ça, avril ?
Le 26 février, donc vraiment.
26 juste, février, juste
voilà,
avant.
Juste du confinement.
Voilà, donc un livre qui va encore trouver ses lecteurs. On va en parler. Et voilà, parce que les premiers mois ont été difficiles pour cet ouvrage. Racontez-nous un petit peu. Dites-nous comment. Qu'est-ce que vous avez voulu nous partager dans ce livre ? Allez, faites revenir votre roman dans la rentrée littéraire.
Alors, c'est un roman qui raconte l'histoire d'une jeune femme de 29 ans. Qui est à l'aube de sa vie avec plein de projets personnels sur le point de se concrétiser. Et puis un soir, c'est le 21 juin, le soir de la fête de la musique, il y a un terrible drame qui se passe et qui fait voler toute sa vie en éclats. Cette jeune femme ne voit qu'une seule solution à ce moment-là, c'est fuir l'été, fuir le soleil, fuir la légèreté du moment qui lui paraît vraiment plein d'insolence. Et elle décide de partir du jour au lendemain, s'isoler dans une vieille maison en Auvergne. Là-bas, elle se coupe du monde, elle ferme les volets, elle ferme la porte, elle a besoin d'obscurité, de silence, de noir, comme si elle était sur le point de s'éteindre. Et en réalité, c'est l'inverse qui va se produire. Elle va renaître. Elle va renaître grâce à des vieux calendriers et des vieux agendas qu'elle va trouver dans la vieille maison, qui ont été laissés là par l'ancienne propriétaire, et qui contiennent des astuces de jardinage, des recettes de cuisine. C'est beaucoup de choses vraiment en lien avec la terre, les plantations. Et donc, elle va se raccrocher à ces vieux agendas, ces vieux calendriers. Et elle va mettre ses pas dans ceux de Madame Hugues, donc l'ancienne propriétaire. Et elle va se laisser petit à petit apprivoiser par la nature environnante. L'odeur des pissenlits qu'elle va laisser entrer dans son salon. Un papillon, puis un chat gris qu'elle va laisser entrer dans sa maison. Et puis la terre, le contact avec la terre qu'elle va découvrir. Et finalement, c'est ainsi qu'elle va renaître au fil des saisons. On la suit sur les 4 saisons, donc sur 1 an. Et on assiste à son retour à la lumière.
C'est plus qu'un effet de mode de retour au rural, c'est quelque chose qui explique comment elle reprend racine peut-être.
C'est ça, comment elle reprend racine et puis comment elle, en fait on la voit redonner vie à un vieux lopin de terre complètement stérile et en fait elle redonne vie à son âme. C'est vraiment le parallèle qu'on suit, comment redonner de la vie là où il n'y en a plus.
Comment vous avez vécu ce confinement ? Vous étiez là pour le coup aussi, à la campagne, comme votre héroïne, ou ça a été plus difficile ?
Non, j'étais dans une zone rurale, mais sans accès à la terre ou à un petit jardin. donc c'était quand même, j'ai quand même vécu un certain enfermement, même si on pouvait un petit peu se promener dans la campagne autour. Mais c'était une période, j'en ai parlé à beaucoup de gens et je suis pas la seule à l'avoir dit, c'est une période où on se sentait enfermé physiquement et un petit peu mentalement, avec une grande difficulté à s'évader par la lecture, par l'écriture. Voilà, c'est une période un peu vide au niveau de l'inspiration.
Bon, donc il faudra attendre un petit peu pour votre prochain roman.
Oh, il est prêt.
Il est prêt.
Il est en cours de peaufinage.
Très bien, en tout cas merci Mélissa D'Acosta. Je rappelle le titre de votre livre « Les lendemains », c'est paru chez Albin Michel. On lui souhaite de bons et de nombreux lecteurs. Merci beaucoup, au revoir.
Au pied de la lettre, RCF.
C'est maintenant le moment de la minute poésie avec Stéphane Bataillon. Bonjour.
Bonjour Christophe.
Alors aujourd'hui, eh bien, la poésie est rattrapée par l'actualité ou la poésie fait l'actualité?
Tout à fait. Une polémique dans l'actualité concernant la poésie, ça vaut le coup d'être relevé.
Ah, c'est un événement.
C'est un événement. Alors ça concerne des grands classiques. Hein, c'est Verlaine et Rimbaud. On parle de leur entrée au Panthéon. Une pétition a été signée par plusieurs anciens ministres de la Culture et la ministre actuelle. Donc, est-ce que cela va aboutir?
Après Maurice Genevoix, hein, qui va rentrer au Panthéon là incessamment,
tout
dans
à
quelques
fait.
Semaines.
On verra bien. Pas sûr, cependant, que Verlaine, mais surtout Rimbaud, ce rebelle aux semelles devant, ait été ravi de cette distinction. Je vais vous lire deux poèmes en fait qui se répondent, qui s'appellent Marine, les deux poèmes. Un de Verlaine et un autre, celui de Rimbaud, écrit 6 années plus tard. Et vous allez voir un peu comment Rimbaud casse les codes de la poésie et annonce, avec le vers libre, toute la poésie contemporaine. C'est pourquoi le Panthéon n'était peut-être pas son rêve.
Voilà, le lieu prévu pour Rimbaud. On commence par Verlaine.
Par Marine de Verlaine. L'océan sonore palpite sous l'œil de la lune en deuil. Et palpite encore, tandis qu'un éclair brutal et sinistre fend le ciel de bistre d'un long zigzag clair, et que chaque lame, en bond convulsif, le long des récifs, va, vient, lui, et calme, et qu'au firmament, où l'ouragan erre, rugit le tonnerre formidablement. Premier poème, tiré des poèmes saturniens de Verlaine, écrit en 1866, et celui, vous allez voir, de Rimbaud.
6 années plus tard.
6 années plus tard, en relation directe. Hein. Les chars d'argent et de cuivre, les proues d'acier et d'argent battent l'écume, soulèvent les souches des ronces. Les courants de la lande et les ornières immenses du reflux filent circulairement vers l'est, vers les piliers de la forêt, vers les fûts de la jetée, dont l'angle est heurté par des tourbillons de lumière.
Voilà, Rimbaud, Verlaine, Marine. Alors, au Panthéon, on aura Verlaine et Rimbaud, ou Verlaine sans Rimbaud, ou peut-être ni l'un ni l'autre. En tout cas, pas Rimbaud tout seul, c'est peu probable.
Peu, sûrement pas.
Merci Stéphane Bataillon, on
Merci
se retrouve
Christophe.
La semaine prochaine pour un autre instant poésie. Et après la poésie, peut-être l'écriture un petit peu. Éric De Luca, quel conseil vous donneriez à un jeune romancier qui débute, alors que vous avez combien de titres derrière vous, de livres, plusieurs dizaines?
Mais les livres dans le dos sont pas ne signifient rien. Je suis toujours débutant face à une nouvelle histoire. Et donc, je lui conseille de rester débutant.
Olivier Mac-Bouchard, comment vous recevez cette leçon de modestie aussi?
Un conseil que je m'efforcerai de suivre, mais je comprends ce message parce que on dit l'angoisse de la page blanche, mais pour moi, lorsqu'il y a une page blanche devant moi, je la vois un peu comme un enfant et un défi. Et on se dit, bon, la page blanche, c'est une aventure qui commence à voir avec des yeux d'enfant et à se lancer à corps perdu dans cette nouvelle aventure. Donc, merci pour ce conseil et je le garde en tête et je le garderai en tête précieusement.
Éric De Luca, quand on écrit, on est tout seul. Alors, j'ai envie de reprendre une citation de Jean Giono qui est dans le livre d'Olivier Mac-Bouchard. Il y a un compagnon avec lequel on est tout le temps, c'est soi-même. Il faut s'arranger pour que ce soit un compagnon aimable.
L'écriture.
Oui, ah. Ça veut dire aussi, on est seul pendant l'écriture. Mmh. Dans l'écriture et d'ailleurs, on peut être aussi dans la vie. Il y a quelqu'un qui est toujours avec nous, c'est soi-même.
Oui, mais le soi-même, à mon âge, est devenu très, très affolé, très nombreux. Il y a toute une espèce d'absents qui sont partis, qui ne sont plus là, qui se retrouvent dans ma tête. Donc, je suis devenu une coopérative d'absents.
coopérative d'absents, c'est joli ça. En même temps, c'est une blessure ou c'est entretenu par le souvenir, ces absents?
Oui, le souvenir qui prétend d'avoir, d'être passé à travers l'oubli, parce que sinon, ce n'est pas un souvenir. Mmh. Et donc, avec la surprise du souvenir.
Comment vous avez reçu cette citation de Jean Giono, Olivier Mac Bouchard ? Il y a un compagnon, je la répète, hein, parce que je trouve que c'est très juste, il y a un compagnon avec lequel on est tout le temps, c'est soi-même. Il faut s'arranger pour que ce soit un compagnon aimable.
J'aime bien la deuxième partie de la citation, parce que pour moi, c'est une mise en garde. En tout cas, je n'ai pas une coopérative d'absents dans ma tête, mais je suis quelqu'un d'assez torturé. Et je m'adresse beaucoup de reproches, de regrets. Et ce message de Giono est assez pertinent en ce sens, dans le sens où travailler avec vous-même pour essayer de rester quelqu'un de bien, de calme, en tout cas de pacifié. Voilà.
Ça passe par l'écriture. Vous êtes sur votre nouveau roman.
L'écriture a un effet curateur.
À la solitude, non ?
Beaucoup de voix dans la tête, et c'est en étant seul et en écrivant que ces voix quand même s'apaisent. Quoi. Et oui, donc je suis sur un deuxième roman. Enfin, le premier brouillon est terminé, donc commence le temps de la relecture et de l'amélioration. Dès que j'ai fini le dit du Mistral, il y a des idées qui sont venues toquer à ma porte. De ma tête, et il fallait ouvrir cette porte, absolument, il fallait répondre au coup sur la porte, voilà. Ça aurait été impoli de ne pas répondre, voilà.
Comment, de San Francisco, on voit la rentrée littéraire, qui est un événement très franco-français, voire très parisien?
Ça fait beaucoup de bien d'être loin, parce que donc moi je viens de passer 15 jours ici. Et il y a beaucoup d'agitation, beaucoup d'invitations, c'est un peu stressant, voire asphyxiant. Et être loin, ça c'est un caractère quand même apaisant. Ça, on voit les choses de loin et elles vous impactent d'autant moins. Voilà. Mais ceci étant dit. La France, on mesure quand même la richesse culturelle de la France, quoi, parce que tous ces romans sont des voix qui s'élèvent, et c'est très bien qu'il y ait des gens qui écoutent ces voix.
Voilà. Et c'est porte ouverte aussi à la littérature. Merci à tous les deux. Merci Iride Luca, merci Olivier Mac Bouchard. Je rappelle le titre de vos livres, Impossible Iride Luca, traduit par Daniel Valin, c'est publié chez Gallimard, un texte qui existe déjà en CD, lu par Laurent Natrella et Denis Podalides. Et puis en poche, le livre précédent d'Iride Luca, le tour de loi, publié aux éditions Folio. Et puis le dit du Mistral, Olivier Mac Bouchard, c'est publié au Tripod. Les lendemains, Mélissa D'Acosta chez Albin Michel. Merci à Pierre-Henri Pagé qui était à la réalisation. Au pied de la lettre, c'est fini pour aujourd'hui.